Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal grâce à Mzati Masanzi.
Les enfants de la République démocratique du Congo font face à la pire épidémie de choléra depuis 6 ans. Selon l'UNICEF qui alerte, plus de 8000 enfants de moins de 5 ans sont infectés dans la province du Nord Kivu au cours des 7 premiers mois de l'année 2023. Dans ce journal, nous nous rendons à Kindu, dans la province du Maniema, pour voir le climat qui règne notamment sur le marché à 2 semaines de la rentrée scolaire. Notre invitée, Esther Vira, cadre administrative de l'ONG Action et Initiative de Développement pour la Protection de la Femme et de l'Enfant. Elle nous parle des défis liés à l'alignement des femmes sur les listes électorales. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bon début de semaine à toutes et à tous. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Les enfants de la RDC sont confrontés à la pire épidémie de choléra depuis 6 ans. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 8000 enfants de moins de 5 ans sont infectés dans la province du Nord Kivu au cours des 7 premiers mois de l'année en cours, soit 6 fois plus de cas que pendant toute l'année 2022. Selon Chameza Abdullah, coordonnatrice principale de l'UNICEF pour les urgences en RDC, si des mesures urgentes ne sont pas prises dans les prochains mois, l'épidémie risque de se propager dans des parties du pays qui sont épargnées depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Élément de réponse avec vous, Jacques-Yves Molima.
L'UNICEF parle de l'intensification des conflits et des déplacements dans l'est du pays qui, selon cette agence onusienne, plonge les enfants dans la pire crise de choléra depuis 2017. Et les chiffres sont effrayants. Tenez, au moins 31 342 cas suspects ou confirmés de choléra et 230 décès sont notifiés dans tout le pays au cours des 7 premiers mois de l'année en cours, dont beaucoup d'enfants. La province du Nord Kivu, la plus touchée, enregistre en elle seule plus de 21 400 cas confirmés ou suspects, dont plus de 8000 enfants de moins de 5 ans, d'après le ministère de la Santé publique. À titre de comparaison, précise l'UNICEF, 5120 cas avaient été recensés sur l'ensemble de l'année 2022, dont 1200 chez les enfants de moins de 5 ans. Ce qui fait dire à la coordinatrice principale de l'UNICEF pour les urgences en RDC que l'ampleur de l'épidémie de choléra et la menace qu'elle représente est alarmante. Chameza Abdullah ajoute que cette épidémie risque également de continuer à se propager dans les sites de déplacement où les systèmes sont déjà débordés et où la population, en particulier les enfants, est très vulnérable à la maladie et potentiellement à la mort.
Jacques-Yves Molima Aouta sur Radio Kapi. L'UNICEF rappelle par ailleurs que la RDC fait face à la pire crise des déplacements en Afrique et l'une des pires au monde, avec plus de 6,3 millions de personnes déplacées à travers le pays. Plus d'1,5 million de personnes, dont plus de 800 000 enfants, sont déplacés dans les seules provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri depuis janvier 2023. Pendant ce temps, 7 morts, 2 blessés, plus de 400 abris, des sinistrés et autres biens calcinés. C'est le bilan provisoire de l'incendie survenu le samedi du camp des sinistrés de Bouchouchou à Mouchobezo, territoire de Calais. Nous sommes au Sud Kivu. L'information vient du cadre des concertations territoriales de la société civile de Calais. Cette structure sollicite le soutien du gouvernement et des humanitaires à la population déjà meurtrie par le drame de Calais. Delphine Birimbi, président du cadre des concertations territoriales de la société civile de Calais, se trouve ici à Kinshasa pour mener un plaidoyer en faveur de cette population en détresse. Il est joint par Rachel Kiesimbangu.
Un incendie grave venait de se produire dans le camp provisoire de Mouchonezo à Calais Centre. Il y a comme bilan provisoire 7 morts, 2 blessés graves internés à l'hôpital général d'Ioussi et plus de 400 abris et des biens de population calcinés dans ces abris provisoires au camp de Mouchonezo. Étant à Kinshasa dans des actions de plaidoyer, nous continuons à présenter nos condoléances à notre population du territoire de Calais, surtout nos frères sinistrés qui venaient encore de perdre de leurs abris provisoires, les biens et des personnes, tout en demandant au gouvernement provincial et national, ainsi que des humanitaires, de continuer à venir en aide de nos frères sinistrés, et ceci en attendant les solutions définitives à la question de la délocalisation définitive de nos frères sinistrés de l'axe Bouchouchou et Nyamukubi.
Il y a trop de morts enregistrés lors des accidents de circulation sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Le constat est du gouvernement provincial du Congo central. Le dernier cas en date est celui qui a coûté la vie à 6 personnes vendredi matin près du péage de Lukala en territoire de Mbanzangongo. Pour essayer d'enrayer ces fléaux, le gouvernement provincial du Congo central prend un train de mesures contenues dans une circulaire signée par le gouverneur Guy Bandundu Ngidi. Mac Matondo, le ministre provincial en charge des transports, nous en parle au micro de Nana Plurich Mambo.
Nous avons constaté que il y a trop de morts. Il y a une recrudescence des cas d'accidents au niveau de la province du Congo central. Et donc, parmi les mesures phares dans cette note circulaire, il y a d'abord les contrôles obligatoires de tous les véhicules. Parce que nous avons compris que tous ces véhicules qui échappent au contrôle technique à Kinshasa viennent terminer leur course ici au Congo central. Le Congo central n'est pas un cimetière. Nous sommes en train d'enlever tous les phares additionnels communément appelés projecteurs LED. Nous exigeons à ce que tous les chauffeurs puissent se munir de tous les documents, se munir du triangle et du signal lumineux de détresse en cas de panne. Nous interdisons aux chauffeurs de transporter les gens dans les conteneurs. Les conteneurs ne sont pas faits pour transporter les humains. En dehors de ça, il y a des véhicules qui circulent sans plaque. Ils ont 7 jours pour se conformer. Les stationnements prolongés sans raison valable sont strictement interdits. Il est strictement interdit aux motocyclistes de transporter à bord les femmes enceintes et les enfants.
Par ailleurs, au Kassai oriental, $500, c'est la récompense promise par la mairie de Mbujimayi à toute personne qui fournirait des informations pouvant permettre aux autorités de mettre la main sur des présumés kidnappeurs qui sèment la terreur dans la ville. Jean-Marie Lutumba, maire de Mbujimayi, affirme sa détermination à lutter contre la multiplicité des cas d'enlèvement enregistrés ces derniers temps dans son entité. En réaction, les habitants de Mbujimayi disent soutenir la décision de leur maire. Des explications avec Esther Ndalafina.
Depuis l'annonce du montant de $500 comme prime d'encouragement disponibilisée par la mairie de Mbujimayi pour tout détenteur des informations sur le présumé kidnappeur, la peur se dissipe de plus en plus dans la population. Plusieurs habitants apprécient la décision prise par l'autorité urbaine. Docteur Emery Tijoka.
C'est une très bonne idée. Ça va vraiment pousser les habitants à plus de vigilance, étant donné que c'est beaucoup d'argent. $500, c'est pas quelque chose de moindre. Et les gens eux-mêmes vont commencer à faire l'inspection. Vont vérifier qui est qui, qu'est-ce qu'il fait. Ça pourrait contribuer à rétablir vraiment la sécurité parce que ces derniers temps, c'est l'insécurité qui règne suite à ces phénomènes-là de kidnapping.
D'autres habitants vont plus loin et exhortent les compatriotes à dénoncer les semeurs de troubles et désolation dans la ville. Chantal Kamoigna.
C'est lui qui connaît là où il y a les kidnappers, qui connaît l'endroit qui est vraiment une adresse sûre, qui n'aide la mairie. Nous vous prions vraiment. C'est un problème très compliqué pour le moment. Les gens marchent avec debout. Aider la mairie, c'est ce que nous vous demandons.
D'après les sources concordantes, certaines personnes victimes de kidnapping sont actuellement prises en charge dans quelques centres médicaux suite à leur état de santé. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Éducation à présent. La rentrée scolaire édition 2023-2024, c'est dans 2 semaines. Ces moments constituent un casse-tête pour de nombreux parents soucieux d'offrir des études de qualité à leurs enfants. Après avoir obtenu la place dans l'établissement où l'enfant va étudier, vient le temps de se procurer les fournitures scolaires. À Kindu, dans le Maniema, il s'observe un engouement sur le marché. Mais selon les vendeurs, cet engouement ne se traduit pas en termes d'achat. Les parents se plaignent de manquer de moyens et certains écoliers se disent inquiets. Depuis Kindu, un reportage signé Florence Kizalunga.
David Kibin est un élève de la 7e année. La situation financière des parents ne le rassure pas.
Non, on ne nous a pas encore acheté des fournitures scolaires. Les parents disent qu'ils n'ont pas encore eu d'argent. Nous attendons.
Pendant ce temps, au marché central de Kindu, les yeux de nombreux parents sont rivés sur les étalages où sont vendus les fournitures scolaires. Très peu achètent, ce qui n'enchante pas le vendeur. Saïd Chilonda Jimmy est l'un d'eux.
Contrairement à l'année passée, cette année, ça ne va pas. Peut-être l'autre parent attend de la veille de la rentrée. Il y a ceux qui demandent pour la curiosité, il y a ceux qui achètent et ceux qui n'achètent pas. Mais nous avons toutes les fournitures scolaires disponibles.
Même constant chez le vendeur de chaussures et sacs, Stéphanie Kachimoua témoigne.
En tout cas, ça ne tient pas parce que depuis le matin, les gens sont en train de circuler, demander le prix, mais on n'achète pas, ça ne va pas. Nous attendons voir si à partir du 20 ou 25, il y aura mal. C'est ce que nous attendons.
Cet autre parent enseigne enseignant de son état accuse 3 mois d'impayement. Presque impossible pour lui de préparer la rentrée scolaire de ses enfants.
En tout cas, cette année, vraiment, nous vivons des calvaires. Il est très difficile de préparer les enfants, puisque nous sommes déjà 3 mois impayés. Comment est-ce que je vais préparer les enfants à la rentrée? Il n'y a rien.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Encadrement des écoles pour la bonne gouvernance, rédévabilité, lutte contre les antivaleurs et organisation des actions et formations pour la gestion des classes à l'âge effectif pour faire face aux pléthores enregistrés dans beaucoup d'établissements, ce sont là des recommandations issues de la réunion annuelle tenue pendant 4 jours à Kinkole, ici dans la ville province de Kinshasa, par les inspecteurs généraux adjoints et inspecteurs principaux provinciaux. C'est en prévision de la rentrée scolaire 2023-2024. Ce rendez-vous a été organisé par l'inspection générale de l'EPST. Chris Bandundu Kapalai, reportage.
À Kinkole, inspecteurs généraux, adjoints et inspecteurs principaux provinciaux venus des 60 provinces éducationnelles de la RDC se retrouvent pour tabler sur la prochaine rentrée scolaire. Au menu des discussions, l'apport de l'inspection dans la bonne gouvernance et la rédévabilité pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est les thèmes autour duquel les échanges se déroulent. Nicolas Nyang et KMB, Cyprien Lissanga, respectivement inspecteur principal provincial de Lubumbashi et de la Tshopo 2, parlent des retombées de ces assises.
Il était question ici d'évaluer les actions majeures que nous avions menées dans le cadre de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement, de la lutte contre les antivaleurs.
Ça aurait un impact positif parce que dans tout ce qu'on nous a dit avec des recommandations.
Enoch Mukutu, assistant de l'inspecteur général Jacques Odia Empêché, prononce les mots des clôtures de cette réunion annuelle au nom de son chef.
Vous êtes suffisamment informé sur l'apport, les actions de terrain à mener au cours de l'année scolaire 2022-2023 afin de booster la qualité de l'enseignement dans notre sous-secteur.
Inspecteurs généraux, adjoints et inspecteurs principaux provinciaux pensent que si les résolutions prises lors de ces assises sont exécutées, beaucoup des choses vont s'améliorer au niveau de l'EPST et la pérennisation de la gratuité effective de l'enseignement sera davantage consolidée.
Direction le Nord Kivu, où les femmes politiques et leaders de la société civile plaident pour un accompagnement pour la suite du processus électoral 2023. Elles réagissent ainsi à la faible présence des femmes sur les listes déclarées recevables et irrécevables à la députation nationale publiée par la CENI le 11 août dernier. Lors d'un café politique vendredi à Goma, ces femmes demandent une implication des partenaires, notamment la MONUSCO, dans la formation de la femme politique congolaise. Bernard Nyangi.
Les femmes placées pour des rôles secondaires sur les listes électorales, d'autres omises carrément par leurs partis politiques, telles sont entre autres causes justifiant ce faible taux de représentation, estiment ces femmes leaders, comme le dit ici Maître Nelly Lumbulumbu du Saoudi Amama Mukongomani.
Plusieurs femmes ont été reléguées sur les listes électorales. Également, plusieurs partis politiques n'ont pas aligné les femmes. Et ceux qui les ont alignées juste pour ne pas payer la caution, comme le dit la loi électorale.
Lors de ce café politique, ces femmes ont demandé notamment à la MONUSCO d'initier un projet pour les aider à relever les défis liés à leur représentation. Madame Esther Vira de l'ONG Aide Profène.
Pour la MONUSCO, nous recommandons un accompagnement en termes de renforcement des capacités, en termes d'appui aussi, pour aider les femmes à relever aussi les niveaux pour être compétitives dans le secteur.
Soulignons que la section des affaires politiques de la MONUSCO a initié ce café politique pour écouter les femmes et assurer une bonne préparation de la suite du processus de dépôt des candidatures pour les élections 2023. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Et puis, c'est en principe demain mardi 22 août que se clôture le dépôt des candidatures à la députation provinciale. Les informations à notre possession indiquent que plusieurs candidats et partis politiques sont en retard. Parmi ceux qui demandent à la CENI de prolonger ces délais se trouvent les députés du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont venus participer à la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans ces deux provinces. Ils estiment que c'est logique que la commission électorale revoie la date de clôture du dépôt des candidatures puisqu'en participant à la table ronde à Kinshasa, ils ont perdu des précieux jours qu'ils pouvaient mettre à profit pour s'acquitter de cette exigence. Jacques Dekana Bakambu, député provincial de l'Ituri, est l'un d'eux. On l'écoute.
Nous sommes venus ici à Kinshasa pour la table ronde convoquée par le chef de l'État. Je suis en train de plaider pour que la CENI puisse prolonger encore plus ou moins 2 semaines. Parce que vous voyez, quand nous sommes venus ici, nous étions à pleine période de la constitution de nos dossiers pour députation provinciale. Et voilà, nous avons été appelés ici et nous avons perdu presque 8 jours.
Les élus provinciaux du Nord qui vivent de l'Ituri, qui sont appelés ici, ils ont droit aussi à déposer leur candidature. Mais si les CENI ne parviennent pas à le faire ici, ça serait tout simplement de le priver de leurs droits. C'est comme ça que nous sommes en train de plaider vraiment à gros cœur à ce que la CENI puisse répondre à ces désidératas des députés du Nord qui vivent de l'Ituri.
Actualité internationale.
Au Niger, dans une adresse à la nation prononcée sur la télévision publique nigérienne Télé Sahel ce week-end, Abdourahman Tiani, chef de la junte, annonce la mise en place d'un dialogue national inclusif dans un délai de 30 jours et annonce une transition qui ne saurait aller au-delà de 3 ans.
L'invité.
Il s'agit de Madame Esther Vira, cadre administrative de l'ONG Action et Initiative de Développement pour la Protection de la Femme et de l'Enfant, qui nous parle des défis liés à l'alignement des femmes sur les listes électorales en mettant l'accent sur les causes de la faible représentation féminine. Le vendredi 18 août, en effet, elle a participé à un café politique organisé par la MONUSCO sur cette thématique à Goma. Esther Vira s'entretient ici avec Bernard Denyangui.
Madame Esther Vira, bonjour.
Bonjour.
Vous avez évoqué entre autres le fait que sur les listes publiées le 11 août dernier par la CENI, la représentation des femmes est estimé à moins de 20%. Quel serait le facteur justifiant ce fait?
En fait, le constat qui est fait, c'est que la femme représente au moins 80% de la démographie en RDC, mais malheureusement, elle n'a pas suffisamment été représentée ou éligible sur les différentes listes électorales qu'on a pu publier.
Et pourquoi cela, pensez-vous?
Il y a plusieurs raisons. On a soulevé certains points, notamment qui sont liés aux différents rôles et responsabilités d'ordre familial et d'ordre social que connaissent les femmes. Il y a également des défis d'ordre économique. Les femmes n'ont pas suffisamment de moyens pour affronter cela et pour participer. Et deuxièmement aussi, on a soulevé l'aspect de non-accompagnement de femmes. On ne les a pas préparées pour affronter cela. On a constaté aussi que l'accompagnement des femmes est un peu hâtif, on peut dire, dans le sens où on fait les choses précipitamment. Les partis politiques ne se sont pas vraiment impliqués pour essayer de les accompagner, les éduquer et renforcer les capacités pour qu'à un certain moment on puisse avoir des femmes qui sont prêtes pour faire face à ça. On ne va pas laisser aussi de côté le fait que les femmes ont bien évidemment aussi postulé, elles se sont aussi représentées, mais malheureusement elles n'ont pas été reprises sur la liste électorale. C'est un peu tous les défis qui vont s'observer. Il y a aussi des stéréotypes qui sont vraiment liés à la participation de la femme dans les instances de décision, dans la politique, mais on a aussi constaté qu'il y a la masculinité positive qui n'est pas vraiment encore comprise chez beaucoup d'hommes, on peut dire, et chez beaucoup de cadres politiques, parce que on comprend qu'il y a derrière tout ça en fait des hommes aussi qui n'accompagnent pas les femmes dans ces cadres-là. Aussi, on peut dire que c'est vrai, il y a la législation congolaise qui favorise et qui accorde aux femmes les mêmes droits que les hommes à participer aux instances de décision, à la politique, mais malheureusement, il y a aussi ces défis à prendre en compte et voir comment soutenir les femmes.
Et donc, vous voulez lancer les appels par rapport à ces défis?
En fait, c'est que, comme nous sommes ici à la MONUSCO, c'est aussi pour faire appel aux différents acteurs, de voir comment apporter leur appui, accompagnement aux femmes pour leur participation aux instances de prise de décision, pour leur participation dans la vie politique. Et tout cela, c'est pour contribuer à l'égalité des sexes, pour contribuer, en fait, à un processus électoral démocratique, inclusif et apaisé, en fait.
Mais en tout cela, que pensez-vous devrait être fait concrètement pour élever ces défis?
Pour que les femmes puissent participer à d'autres séances qui restent, parce que le processus continue, nous invitons les acteurs en fait politiques de la société civile, les cadres organisationnels, les acteurs gouvernementaux, de prendre conscience de la participation de la femme, de bien comprendre les causes profondes qui laissent à ce que les femmes ne soient pas à ce niveau, et d'essayer de combattre en fait ces causes pour amener les femmes qu'elles soient aussi confiantes et capables de faire face à cela, de participer. mais aussi de renforcer les femmes en termes de capacité pour qu'elles soient en mesure aussi d'être au même niveau que les autres en fait. On a soulevé aussi la question de voir comment inclure les jeunes. Les jeunes aussi doivent être considérés, impliqués dans ces processus-là, qui doivent aussi être accompagnés déjà dans les différents niveaux secondaires, universitaires, pour comprendre leur participation dans les secteurs politiques. Parce que c'est le droit de tout un chacun, c'est une opportunité d'aider le pays. Parce qu'on a besoin des hommes et des femmes qui travaillent ensemble pour développer le pays.
Qu'est-ce que vous vous attendez de la MONUSCO, qui est ici comme un de vos partenaires?
Pour la MONUSCO, nous recommandons en fait un accompagnement aussi en termes de renforcement des capacités, en termes d'appui aussi pour aider les femmes à relever aussi les niveaux. Comme ça, ça va permettre à ce que dans ces processus, que nous puissions encore avoir des femmes plus fortes avec un très bon bagage pour faire face au secteur politique et être compétitives dans les secteurs.
Madame Esther Vira, merci.
Merci beaucoup.
Notre invitée Esther Vira est interrogée par Bernard Denyangui. Voilà, fidèles auditeurs, c'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima sous la supervision de Pele Kipela Mondo. Merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde, mais également à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite de la matinale avec Jean-Marc Matoa qui m'ont fait l'élé. Dijano.